Écoutez, aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les Québécois, de toutes les régions, de toutes les générations. Vous l'avez vu, depuis quelques semaines, le nombre de cas s'est accéléré dans plusieurs régions du Québec. On est rendu qu'on a 8 régions qui sont passées au jaune, donc dans un stade de pré-alerte. Donc, on a Montréal, Québec, Laval, Montérégie, Estrie, Outaouais, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Donc, 8 régions, évidemment, c'est beaucoup. Donc, c'est pas seulement concentré dans quelques grandes villes. Donc, on voit qu'actuellement, la transmission du virus se fait vraiment dans la communauté. Puis quand je dis communauté, c'est autant les établissements que les maisons. Donc, on constate depuis quelques semaines que suite à des rencontres de famille ou des rencontres d'amis, le virus se propage trop. Et je suis très inquiet de la situation qu'on vit actuellement, puis la tendance qu'on voit au Québec. Et si le virus continue de se propager à ce rythme-là, bien, on risque effectivement d'avoir des personnes qui vont aller occuper des lits d'hôpitaux, donc des personnes même qui vont éventuellement mourir. On risque aussi d'engorger les hôpitaux, donc de se retrouver avec des personnes qui vont voir leur chirurgie reportée. On commence à voir des cas dans plusieurs classes des écoles, de nos écoles, donc on est obligé de fermer des classes, même si c'est encore moins de 1% de la population, si ça continue, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui ne pourront pas aller à l'école. Puis ça, c'est à peu près la pire affaire qu'on ne peut pas imaginer. Et si le virus continue de se propager, il y a aussi un risque qu'on soit obligé éventuellement de refermer des entreprises. Et donc, il y a des pères, des mères de famille qui risquent de perdre leur gagne-pain. Donc, la situation est critique, est inquiétante, et il faut qu'on réagisse maintenant. C'est la responsabilité de chaque Québécois. Et aujourd'hui, je veux faire un appel à la solidarité. Je veux demander à tous les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux au Québec, s'il vous plaît, pensez aux personnes vulnérables. Pensez à ceux qui attendent une chirurgie. Pensez à ceux et celles qui travaillent dans notre réseau de la santé. Pensez à nos enfants. Pensez aux femmes et aux hommes de famille qui ont besoin de ces revenus-là pour leurs enfants. Donc, c'est le temps de penser aux autres actuellement. Donc, je demande à tout le monde de limiter le plus possible les rencontres, incluant dans les maisons. Donc, c'est pas le temps de faire des parties de famille ou des parties d'amis. Vous pouvez vous réunir quelques-uns, quelques-unes ensemble, mais soyez prudents, gardez vos distances, portez un masque. Et je comprends que c'est pas facile. Je comprends que ça fait 6 mois, même plus que 6 mois. Donc, il y a des gens, puis moi le premier, qui ont hâte qu'on revienne à ce qu'on pourrait appeler la normale. Mais le virus est toujours là. Puis c'est pas seulement au Québec, là, vous le voyez, un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays où il y a une forte augmentation du nombre de cas. Donc, c'est pas unique au Québec. On est tous en guerre contre le virus. Et il y a un vrai risque de deuxième vague. Donc, il y a un vrai risque qu'il y ait une vague assez forte pour qu'on soit obligé, effectivement, de recommencer à confiner les Québécois. Donc, on ne veut pas ça. Donc, je termine en vous disant, je compte sur les Québécois, là, je compte sur vous autres. J'ai besoin de vous autres. S'il vous plaît, pensez aux autres. S'il vous plaît, portez un masque, gardez vos distances. On est capable ensemble de passer au travers, puis de revoir le nombre de cas diminuer. Mais il faut agir maintenant. Donc, je compte sur vous, puis je vous remercie à l'avance.
Few words in English. Le premier ministre qui, aujourd'hui, là...
C'est sérieux, là.
Ouais, là, il a changé de ton... Tu le sens très inquiet, Valérie.
Oui, on le sent très inquiet. Puis d'ailleurs, quand on regarde les chiffres qui sont en augmentation jour après jour, là, on parle de régions qui se retrouvent en zone de préalerte. On est rendu à 8. Il y a 18 régions au Québec. On est rendu à 8 régions. C'est quand même beaucoup, là. On pense à Québec, Montréal, Laval, Montérégie, Estrie, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Et évidemment, puis c'est drôle, ce matin, il y avait un sondage qui est sorti de Léger qui disait qu'il y a plusieurs Canadiens, en fait, près du quart des répondants, qui croient que les fonctionnaires exagèrent quand on parle de la COVID-19. Et surtout les jeunes qui prennent de moins en moins de mesures de distanciation physique. Ils n'ont pas nécessairement envie de porter le masque. On dit que les gens de 55 ans et plus sont plus, pour reprendre le mot de la ministre Guilbeault, sont plus dociles.
Ouais.
Mais les gens de 55 ans et moins font moins attention apparemment.
Ouais. Alors là, écoutez, là, quand il dit « faut penser aux autres », il faut penser aux personnes vulnérables, aux personnes qui attendent une chirurgie, aux personnes dans le réseau de la santé, les enfants, les pères et mères de famille qui ont besoin de leur gagne-pain. Penser aux autres. C'est un appel à la solidarité.
Mm-hmm.
Je ne sais pas s'il va être entendu. Parce que quand tu regardes les comportements de certains, ils sont pas trop dans la solidarité, ils sont plutôt dans l'égoïsme puis dans le gros nombrilisme.
Ben, quand on regarde les manifestations qui ont lieu au cours du week-end où il y a des centaines de personnes qui se rassemblent sans masque, ça peut être inquiétant, évidemment. Et là, quand
D'ailleurs, il y a une manif devant l'Assemblée nationale un peu plus tard cet après-midi, là. Ouais, ça circule.
Ils s'organisent sur les réseaux sociaux.
Ben oui, c'est sûr. Alors, puis là, il dit il y a un risque de deuxième vague.
Et de
un vrai risque. Et il a parlé, oui, il a utilisé le mot.
Oui.
Il y a un risque qu'on soit obligé de reconfiner les Québécois. On va aller écouter Christian Dubé, le ministre de la Santé.
Peut-être illustrer un peu plus en détail certains propos qu'a tenus le premier ministre. Tout d'abord, je me suis fait demander souvent dans les dernières semaines pourquoi on était inquiet, même s'il y avait une augmentation des cas, puis vous le voyez très bien, là, dans les derniers jours, on a eu ce matin tout près de 300 cas pour la journée d'hier. Les gens se demandent, mais pourquoi vous êtes si inquiet pour les cas alors qu'on ne voit pas soit l'augmentation des hospitalisations ou des décès? Bien, je vous dirais premièrement, dans les derniers jours, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent ça de près, il y a eu une augmentation des hospitalisations. Mais encore plus important que ça, c'est tout l'impact que ça a sur notre réseau de la santé. Puis, ce que j'aimerais vous donner, puis je vais vous donner des exemples aujourd'hui, que tout c'est le fait de ne pas suivre les règles a un impact, oui, sur les gens eux-mêmes qui peuvent contracter la maladie ou la donner à d'autres, mais en ce moment, on a un réseau de la santé qui est très fragile. Puis, lorsqu'on est obligé de faire des choix qui sont très difficiles, puis on a commencé à les faire, malheureusement, dans certaines régions, puis on prendra la région de Québec, où on doit, par exemple, prendre du personnel qui donnait des soins, puis de leur demander de nous aider dans du dépistage, mais c'est déjà des choix. Alors, peut-être que les gens, puis vous vous souvenez de ce que j'expliquais en début de semaine, peut-être que les gens ne le voient pas, ceux qui disent que ce n'est pas important, puis on ne le voit pas vraiment dans vos statistiques. Moi, je dois vous dire qu'on le voit, puis on le sent dans notre système de santé. Puis malheureusement, il ne faut pas attendre de le voir encore plus pour commencer à réagir. Donc, c'est l'essentiel de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on va annoncer des mesures supplémentaires aujourd'hui. Justement parce qu'on ne peut pas continuer de mettre à risque notre réseau de la santé. Je veux aussi rappeler qu'est-ce que c'est nos critères. Parce que là, on vient de faire passer 4 zones dans le jaune. Puis ça, pour moi, c'est important que les gens le comprennent parce qu'il y a eu beaucoup... Puis je répondrai aux questions un peu plus avec le docteur Horacio, mais pour moi, là, les raisons qui ont fait que ces 4 nouvelles régions-là ont passé dans le jaune, bien, c'est sûr qu'on parle de la transmission communautaire. Le premier ministre l'a dit. Mais ça veut dire quoi, de la transmission communautaire? Les gens l'oublient, là. C'est nos proches, c'est nos familles. C'est pas un individu qui arrive d'Europe, là. C'est lorsqu'on baisse la garde avec nos amis, avec nos familles, des gens qui viennent nous voir, puis c'est pour ça qu'on met tellement d'emphase sur les parties privées. Les parties privées, c'est notre plus gros problème. C'est quand les gens viennent ensemble, puis que malheureusement, après un bon verre de vin ou une bonne bière, bien là, la garde baisse. Puis là, on se rapproche à moins de 2 mètres. On n'a pas notre masque. Et là, il y a quelqu'un qui part de ce party privé-là, puis ils s'en vont en contagier pas un, pas deux, mais 10, parce que ces gens-là vont se promener. Alors, la contagion communautaire fait, aujourd'hui, est la principale raison pour laquelle il y a 4 de nos régions qu'on a mis dans la zone d'alerte. Je vous ai parlé du nombre d'éclosions. Je vous ai dit, il y a le nombre d'éclosions et il y a aussi la taille des éclosions. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, particulièrement dans ces régions-là, pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui a fait qu'on a mis ces régions-là dans le jaune. J'ai expliqué tout à l'heure que la capacité, vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'il y avait 3 critères, mais la capacité des soins dans cette région-là est tout aussi importante. Puis vous le sentez, là, pour ceux qui sont dans la région de Québec, vous en entendez parler, on a déjà des enjeux de capacité à Québec pour les raisons qu'on a des éclosions. Et je finirai par les rassemblements privés. Puis je dirais aussi les fêtes ou les parties dans des bars, puis je vais vous donner des exemples d'événements qui sont arrivés, qui sont vraiment en dehors des normes et qui fait qu'on est inquiet pour ces régions-là. Bon, je vous ai parlé de 4 nouvelles régions. Je vais vous donner des exemples pour que les gens se retrouvent. En Montérégie, là, nous avons eu un rassemblement de 17 personnes dans un restaurant. 17 personnes. Ensemble. À cause de ce rassemblement-là, j'ai 31 cas en ce moment qui sont associés à ce rassemblement-là depuis qu'il y a eu lieu. Mais savez-vous, on va devoir faire le dépistage de 330 clients qui sont inscrits au registre de ce restaurant-là. Alors, imaginez-vous la charge de travail pour les gens de santé publique de tout contacter ce monde-là. Et malheureusement, il y a des gens qui ne répondent même pas aux appels, qui ne veulent pas répondre aux appels. Alors, imaginez-vous la difficulté en ce moment, c'est non seulement de contacter ces 330 personnes-là, mais d'avoir les bonnes réponses pour empêcher ce que je vous ai expliqué, puis que le docteur Arruda, d'être capable de contrôler l'éclosion. Il y a eu un pique-nique, je suis toujours en Montérégie, un pique-nique, un barbecue extérieur au Mont-Saint-Bruno, sans aucune mesure de distanciation. Pas de masque. Il y a au moins 5 cas qui viennent de ça. Et ça, c'est 5 cas avant de considérer la contagion. À mon sens, c'est inacceptable. Si les gens ne comprennent pas ce genre d'exemple-là, bien, je m'excuse, mais ils ne comprendront jamais. Chaudière-Appalaches. Quelqu'un l'a soulevé dans votre équipe, dans l'équipe de journalistes. Nous, on l'a sur notre radar depuis quelques jours. Une coiffeuse qui savait qu'elle était contagieuse a coiffé 15 personnes dans 6 milieux différents, de RPA, de CHSLD, puis de résidence. Inacceptable. À Montréal, dans les milieux de vie, puis là, j'ai un corollaire de ceux qui n'ont pas suivi les règles. En ce moment, j'ai 27 nouveaux cas dans des établissements, soit de RPA. Et pour moi, ce qui me préoccupe, puis vous allez voir les mesures qu'on va annoncer tout à l'heure dans les RPA, autant on fait des efforts monstres depuis 3-4 mois sur les CHSLD, les RPA, pour moi, c'est notre prochain problème si on ne fait pas attention. Alors, je vous donne ces exemples-là. On a au moins une vingtaine de cas, des nouveaux cas dans des établissements de RPA dans les derniers jours. Je vais finir avec le Bas-Saint-Laurent. Bon, le Bas-Saint-Laurent, vous le savez, c'est la 4e région qui passe dans le jaune. Il y a eu des fêtes privées, toutes les bonnes excuses, des épluchettes de blé d'Inde. On aime tout ça, les épluchettes de blé d'Inde. Mais il y a plusieurs cas positifs qui nous ressortent de ces parties-là. Et là, maintenant, ce que j'entends, c'est que les gens jouent avec les règles. Parce qu'on a mis des limites maximum, puis là, le docteur Arruda vous l'expliquera, mais là, on commence à faire des petits groupes, puis on dit, bien, c'est 3-4 petits groupes, ça compte pas. Bien non, c'est le même rassemblement. Puis ces gens-là se rejoignent après. Alors, je pense que, dans le cas du Bas-Saint-Laurent, je vous le dis, on a eu un petit peu plus que 30 cas juste dans les dernières 48 heures à cause de ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces régions-là d'être dans la zone alerte, ou ce qu'on appelle le jaune. L'avertissement de préalerte, pour moi, puis vous l'avez vu à Québec dans les derniers jours, pour ceux, parce que Québec est dans le jaune depuis la semaine dernière, il va y avoir plus d'interventions policières. Ça, c'est sûr. Il y en a déjà eu, puis il va y en avoir encore plus. Il va y avoir plus d'inspections. On va faire un dépistage beaucoup plus ciblé. Vous avez vu quelle était notre moyenne des derniers jours. On est entre 20 et 26 000 tests, donc on va être capable de faire du dépistage plus ciblé. Il faut le faire. on va annoncer maintenant, on l'annonce maintenant, pardon, qu'on va interdire la vente de nourriture à minuit dans les bars. Puis la raison, c'est parce que les gens se croient plus intelligents que les règles, puis qu'ils disent, bien, c'est facile, si on veut continuer à vendre de l'alcool, bon, on a juste à rajouter des mécroquettes, puis ça va être parfait. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est fini, la nourriture, après minuit, dans les bars. On va faire un contrôle plus serré de l'achalandage dans certains milieux pour faciliter. Alors, les 8 zones qui viennent de passer au jaune, malheureusement, principalement à cause d'individus qui ne sont pas responsables, vont avoir un impact sur 75 % du Québec. Les 8 zones qui sont maintenant dans le jaune, ça représente 75 % de la population. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est après le jaune? Vous vous en souvenez? C'est la jaune, c'est la zone orange. Et qu'est-ce que ça veut dire si on passe dans la zone orange? Bien, on va être obligé de réduire le nombre de personnes dans les événements publics, particulièrement ce qu'on appelle les rassemblements non organisés, comme les mariages ou ce genre d'événements-là. On va réduire le nombre de personnes dans les résidences privées, qui passerait, si on s'en va dans la zone orange, de 10 à 6. Il y aurait la fermeture des bars. Il y aurait des restrictions dans les restaurants pour se limiter au take-out. Je le rappelle, il n'y a aucune des 8 régions qui est dans l'orange en ce moment. Mais il y en a quelques-unes qui sont très proches, de la zone orange. Et si ces régions-là, malheureusement, je le répète, en raison de l'irresponsabilité de certains individus, on va être obligé de passer à des mesures aussi restrictives que celles-ci que je viens de nommer. Je termine avec des mesures qui sont particulièrement importantes pour nos aînés. Il y a déjà des règles qui sont en vigueur dans nos RPA. On l'a dit, il y a beaucoup de préoccupations pour les RPA. En ce moment, dans les règles qui sont en vigueur, lorsque les gens vont visiter des gens de leur famille, le port du masque est exigé pour les visiteurs puis le personnel. On a déjà, la plupart des RPA ont un registre des déplacements. Et le registre des déplacements n'est pas particulièrement pour restreindre l'entrée et sortie des propres résidents, mais être capable de voir s'il y avait des cas, être capable de faire le dépistage, un peu le même principe qu'on avait demandé aux propriétaires de restaurants et de bars. Maintenant, ce qu'on va ajouter à cette règle-là, qui est très importante, mais qui est, je dirais, excessivement en ligne avec ce qui se fait déjà dans les condos ou les immeubles, appartements, c'est qu'on va demander aux résidents de ces RPE, de résidence pour personnes âgées, d'avoir le port du masque lorsqu'ils se déplacent dans les corridors. Parce qu'on s'est rendu compte que ça peut être un élément excessivement important. On l'avait déjà vu dans les condos. Donc, ce qu'on va demander, c'est que dans les corridors, les ascenseurs, les salles communes, les gens qui sont dans les RPA vont devoir porter le masque. Je le sais, vous m'avez déjà entendu, je le sais que c'est plate. Ce sont des restrictions qui sont tannantes à annoncer. On n'aime pas ça. Mais je le répète, pour les raisons qu'on a expliquées, on va devoir le faire. Je voudrais juste rappeler ce que le premier ministre a dit. Si on veut garder un minimum de normalité, ces solutions-là, ils sont entre nos mains. Il n'y a rien de bien sorcier dans ce qu'on vient d'annoncer. Je pense qu'être responsable, c'est de penser aux autres. Mais je le répète, notre système de santé est déjà fragile. Et chaque fois qu'on a un nouveau cas, qu'on doit travailler avec la santé publique ou que cette personne-là peut un jour aller dans une clinique ou aller à l'hôpital, c'est du personnel de la santé qu'on utilise alors qu'on aurait pu éviter. Alors, je vous demande d'être responsable, puis j'apprécie énormément l'effort qui va se faire dans les prochains jours. Merci beaucoup.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, j'aimerais peut-être passer un message, si vous me permettez. Premièrement, je tiens à vous dire qu'en tant que directeur national, tout comme le Premier ministre et le ministre, je suis inquiet de voir ce qui se passe actuellement en termes de situation. Je comprends la volonté de relâchement de certains où on est un peu fatigué, puis des gens sont peut-être un peu plus insouciants par rapport à la situation parce qu'ils pensent que c'est parti, mais c'est un virus qui est très traître. Et je peux vous dire une chose qui est très importante pour moi. Il faut collaborer avec les équipes de santé publique si vous êtes contacté. Et si vous avez un test positif, il ne faut pas vous promener. Peut-être que pour vous, vous ne serez pas malade, mais c'est peut-être votre grand-mère ou quelqu'un, la grand-mère d'un ami qui va décéder de cette période-là. Et puis je pense, très honnêtement, on a gagné très cher notre liberté avec le confinement total qui a eu énormément d'impact sur la société, sur la santé mentale des jeunes, sur la santé des personnes âgées, etc. Il faut vraiment que vous nous aidiez, parce que nous, on peut faire notre effort de notre côté, mais si vous ne collaborez pas avec la santé publique pour donner les informations, personne ne va vous chicaner, mais on doit connaître quelles sont les personnes avec qui vous avez été en contact pour freiner cette chaîne de transmission. Là, la courbe, là, il faut la réaplatir. Il faut qu'on reste dans le jaune, quitte à revenir dans le vert, mais pas aller vers l'orange puis le rouge. Fait que je vous supplie de collaborer avec les gens de santé publique, parce que c'est vraiment, qu'on le veuille ou non, une question de vie ou de mort, ou de liberté qu'on a eue. Je pense que porter un masque, maintenir à 2 mètres les distances, puis éviter les gros rassemblements, c'est peu payé par rapport à ce qu'on va voir venir si jamais ça se remet à flamber. Ça peut véritablement, et quand ça flambe dans une deuxième vague, la première vague, c'est de la petite bière par rapport à la deuxième. Je m'excuse d'insister, mais je voulais vraiment cogner sur le clou, M. le Premier ministre et M. le ministre de la Santé. Collaborez, s'il vous plaît, avec les équipes de santé publique.
Merci à tous. Nous sommes donc prêts à prendre les questions. Nous avons un peu plus d'une demi-heure pour répondre aux questions de tous les journalistes et vous êtes nombreux. Alors, on s'en tient à une question, une sous-question et on commence aujourd'hui avec Marc-André Gagnon, Journal de Québec, Journal de Montréal.
Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, vous dites que la situation est critique. Il faut qu'on réagisse maintenant. J'entends tout ce que vous dites par rapport au party. Bon, il y a eu une autre manifestation anti-masque le week-end dernier. Ils n'étaient pas 1 000, ils étaient 10 000. Vous avez certainement entendu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dire que ça lui fait peur. Puis je comprends le principe du droit de manifester, que vous essayez de ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais reste qu'à la maison, les gens sont nombreux à se demander si vous allez agir à un moment donné contre les anti-masques. Donc, ma question, elle est simple. Allez-vous faire de quoi avec les anti-masques?
Bon. D'abord, il faut avoir un équilibre, puis à ce moment-ci, j'exclus rien. On sait que dans certains pays, les manifestations anti-masques sont illégales. Bon. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas dans ces manifestations-là qu'on a des problèmes de propagation. C'est dans les maisons, les parties de famille, les parties entre amis, c'est là que ça se passe surtout. Donc, peut évaluer la possibilité d'abord de s'assurer que ces gens-là portent un masque quand ils manifestent. Au Québec, c'est important de pouvoir exprimer son désaccord avec le gouvernement. Donc, jusqu'à temps que ça nuise pas à la santé publique, bien, on va le tolérer. Mais on n'exclut rien pour la suite des choses.
Très bien. Sur un autre sujet, vous avez promis au nouveau préposé qu'il gagnerait 49 000 $ par année. Vous l'avez répété pas plus tard que le 21 août dernier en disant « Le 15 septembre, c'est 26 $ 49 000 $ par année. » Ça, c'est très clair, non négociable. Alors là, on voit que hein, les nouveaux préposés ont signé des avis d'engagement à 20-55 $ Donc, est-ce que je me trompe ou on se retrouve devant un autre exemple de message qui, visiblement, là, semble avoir été mal compris, soit par les citoyens ou par le réseau?
Ou par les syndicats. Parce que j'ai vu dans certains articles que les personnes citées étaient des représentants syndicaux. Bon, je veux être très clair. Les 10 000 nouveaux préposés vont gagner 49 000 $ Pour l'instant, pour gagner 26 $ de l'heure ou 49 000 par année, il faut tenir compte à court terme des primes qu'on leur verse. On est en négociation avec les syndicats, ce qu'on souhaite, c'est que le plus rapidement possible, dans la convention collective, avant les primes, ces personnes-là gagnent 26 $ de l'heure ou 49 000 $ par année. Mais ce qui est clair, c'est que à partir de maintenant, ils vont continuer de gagner 49 000 $ Il y a une partie de ce montant-là qui va être une prime, tant que ça ne soit pas dans la convention collective. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que la convention collective soit négociée, qu'on s'entende avec les syndicats pour l'inclure dans la convention collective, puis qu'on n'ait pas besoin d'ajouter une prime pour arriver à ce montant-là. Mais moi, je veux rassurer tout le monde, là, tous ceux qui ont choisi de venir travailler comme préposés dans les CHSLD, il y en a plus de 7 000 qui ont fini leur cours, vont tous gagner 49 000 $ par année.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle.
En clair, M. Legault, ce que vous dites là, aux Québécois, je comprends que vous ne voulez pas en fait dire qu'on s'en va vers un confinement, mais dans les faits, là, quand on regarde la situation, les cas qui augmentent, la courbe qui remonte, le nombre d'hospitalisations qui remonte, tout ça, dans les faits, on s'en va vers une partie de reconfinement.
On ne souhaite pas aller là.
Non, mais les faits, c'est ça.
Non, mais... À moins que vous ayez une boule de cristal, au printemps, on était à 1000 cas par jour. Là, on est à près de 300 cas par jour. Donc, on n'est pas au même endroit qu'on était au printemps. Est-ce qu'on va se rendre là? On va tout faire pour ne pas se rendre là. C'est pour ça que je dis aux Québécois, faites attention. On pourrait. Ce n'est pas impossible de se rendre là, mais on va tout faire. Puis moi, je suis convaincu qu'on est capable, ensemble, de ne pas se rendre là.
Et qu'en est-il de l'état de préparation, M. Dubé, parce que vous dites qu'il y a une pression qui s'exerce, entre autres dans la région de Québec, sur le milieu hospitalier, qui est déjà fragile, pour éviter qu'on se retrouve dans la même situation qu'on a connue au printemps, c'est-à-dire le manque de matériel, le manque de personnel dans les hôpitaux, mais aussi dans les CHSLD, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que si, effectivement, la situation... revient à ce qu'on a connu déjà, là, avec une pression plus grande sur le système de santé, pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation? Parce que là, vous avez eu le temps de vous préparer.
Alors, quand j'ai déposé, il y a à peu près un mois, le plan pour la deuxième vague, vous vous rappelez qu'il y avait 9 axes d'intervention. Et chacune de ces axes d'intervention, qu'on soit, par exemple, au niveau de prévention et contrôle des infections, qu'on soit à la gouvernance de Montréal, qu'on soit avec les EPI, les équipements de protection. On a travaillé là-dessus, puis je peux vous dire qu'on est prêt. L'enjeu où on est le plus fragile, c'est avec notre personnel. Parce que le personnel, il nous en manquait déjà. Il a été fragilisé, puis je fais pas de politique, là, mais il était déjà très fragile avant qu'on rentre en pandémie. On a eu la pandémie, notre personnel est encore plus fragile, et on n'a pas eu le temps, avec la négociation syndicale, d'engager tout le monde qu'on voulait avoir. On est en train de travailler là-dessus. On a eu une belle avancée avec nos préposés aux bénéficiaires. Le premier ministre vient d'en parler. Mais on a encore besoin d'infirmières puis d'infirmières auxiliaires. On est en négociation, notamment avec la FIC. Le dossier avance, mais je vous dirais qu'au niveau de notre personnel, on y travaille, on a essayé avec les gens de « je contribue » d'avoir du personnel supplémentaire. Mais toute la question du personnel, pour nous, elle est excessivement délicate. Et c'est là, quand je vois les exemples que je vous donnais, où on est obligé de mettre une pression additionnelle sur le dépistage pour être capable de faire du suivi avec les gens, puis on est obligé d'enlever des infirmières à des endroits où on pourrait soigner, où on pourrait faire du rattrapage dans nos listes d'urgence, bien, on est obligé de les mettre sur des cas qui n'auraient pas dû arriver. Donc, si vous me demandez, on a travaillé, puis je peux vous donner des exemples de tout ce qu'on a fait dans les derniers mois, mais où on a le plus de fragilité, c'est avec notre personnel, qui fait déjà un effort incroyable pour être prêt, mais il va falloir que les gens comprennent que les gestes que l'on pose en ce moment peuvent avoir un impact sur eux. Parce que ça veut dire que c'est un parent qui va peut-être être obligé de retarder son opération. C'est ça qui est en train d'arriver. Quand je dis que le système est fragile, c'est pas uniquement à cause du personnel, mais on a déjà des retards qui nous viennent de ce qui est arrivé dans la première pandémie, dans la première vague. Puis si on continue de faire la même chose, bon, on monte à 400, 500, 600 cas, mais il y aura plus de gens qui vont être à l'hôpital. Puis encore une fois, c'est notre réseau qui va être mis à mal.
OK, Louis Lacroix est sur place, donc continue à écouter ce point de presse. Mais je veux aller à une courte analyse de Luc Lavoie. Je vais dire sentiment d'urgence, hein?
En tout cas, changement de ton, changement de vocabulaire. Je veux dire, M. Legault a employé les mots suivants. Situation critique et très inquiétante. Hein? Et puis, il a parlé de risque de refermer des entreprises. Il dit, bon, là, c'est plus le temps de faire des parties. On sent pas seulement... On a déjà entendu ces phrases-là. Le ton a changé et le sens de l'urgence dans les propos qu'ils tiennent. Par exemple, il dit que déjà, il y a des enjeux de capacité à notre réseau de santé dans
À Québec, oui. Ça veut dire que les soins intensifs sont pleins, là. C'est ça que ça veut dire.
C'est ça que ça veut dire, en effet. En Montérégie, il a donné des exemples. Le cas de la Montérégie, 17 personnes mangent dans un restaurant. Il en découle 31 cas. Et il y a un dépistage de 300 clients qui est en train de se faire.
Exact.
La coiffeuse. Écoute, elle savait qu'elle était positive, puis elle s'est dit, ben, coudonc, on va continuer à faire la job comme si de rien n'était. Fait qu'elle a reçu 15 personnes de différents milieux, de différents groupes d'âge.
Non, puis quand
plus
il
ou
dit,
moins vulnérables.
Il n'y a plus de bouffe d'un bar à partir de minuit parce que les bars se croient plus intelligents que les règles. Ils servent de la bouffe, comme ça, ils vont pouvoir continuer à servir de l'alcool. Je suis obligé d'arrêter, je suis obligé de leur interdire de servir de la bouffe. Ma gang de taouins.
Là, vraiment, j'espère que tout le monde entend ce qui a été dit aujourd'hui. Soyons solidaires. C'est un appel à la solidarité. Ce sont les mots du premier ministre. Je le suis complètement. Soyons solidaires. Pensons aux autres. Pensons à nous-mêmes. Il faut qu'on traverse ça. Parce que, moi, ce qui continue de m'inquiéter, Bernard, c'est que, autant M. Legault que M. Dubé parlent de la possible deuxième vague. Alors, ne vous trompez pas. On n'est pas dedans encore. Si on tombe dedans, ça va être dramatique.
Non, puis Arruda a dit, là où il y a eu des deuxièmes vagues, la première vague, c'était de la petite bière par rapport à la deuxième.
Ben, c'est le cas présentement en France. C'est incroyable comment ils en ont. C'est le cas présentement dans divers pays comme le Pérou, le Brésil, le Mexique. Puis aux États-Unis, bon, on n'en parle même pas. Ils approchent les 200 000 morts s'ils ne les ont pas atteints aujourd'hui. Alors réveillons-nous, soyons solidaires, arrêtons d'écouter les coucous, puis les malades, puis les gourous. Puis
d'ailleurs, il y a une manif prévue, là, une manif des anti-masques qui est prévue là, devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Là. Je sais pas si j'imagine qu'un journaliste l'a vu passer, puis la question va être posée. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette manif-là? Là?
Moi, je commence à en avoir assez de tout ça, tu comprends? Quand il y a une loi, quand il y a un règlement qui est en bonne et due forme, comment ça se fait qu'on peut pas l'appliquer? Okay. Est-ce que j'ai le droit, moi, par exemple, de sortir et de dire, écoutez, la limite de 100 km/h sur la 20, oubliez donc ça, où on roule tout à 150.
Alors moi, Luc, là, on va se reparler à 14h, là, mais je lance l'appel tout de suite. Là. Écrivez-moi au 98985 ou encore Drainville à commercial 985fm.ca pour me dire, pensez-vous que l'appel à la solidarité va être entendu? C'est la deuxième fois dans les faits que Legault lance un appel à la solidarité. La première fois, c'était le printemps passé, puis ça a été entendu massivement. Pensez-vous que ça va être entendu cette fois-ci? Je suis curieux de lire vos commentaires. On va s'en reparler tout à l'heure, Luc.
D'accord.
OK, on s'en va à la pause. Au retour, je veux vous parler de ce cas. Hugo Tousignan, ce gars-là a agressé à de multiples reprises des femmes, menaces de mort, tout le reste. Et là, il a menacé sa conjointe, son ex. On pense que c'est son ex, on n'est pas sûr. Et puis là, il vient d'être libéré. Sous condition, je veux bien, mais il vient d'être libéré. Ça me met en maudit parce que j'ai l'impression que le juge prend un risque. Je suis pas convaincu que c'est un bon risque. Je comprends pas pourquoi les juges prennent. Est-ce qu'ils manquent de place dans les prisons? C'est pour ça qu'ils les gardent pas dedans, ces gars-là? Après la pause.